Voilà, je vous souhaite une bonne fête à tous.
Merci.
Bonne fin de carême. Maintenant qu'une semaine est passée, c'est comme si c'était terminé. C'est le premier pas qui compte, après le reste, ça coule tout seul. Ça coule tout seul parce que ça s'engorge pas. Je dis bonne fête parce que tous les dimanches c'est notre fête, évidemment, bien sûr. Mais d'une manière particulière, ce jour de l'orthodoxie, ce triomphe de l'orthodoxie est notre fête. Vous savez que c'est une fête qui a été instituée pour rendre grâce à Dieu de la bonne fin de la querelle des iconoclastes, la restitution de la possibilité de la vénération des saintes icônes, des saintes images. Mais ça va plus loin que ça. Le concile exprime plus que cette simple restauration des images. Parce que la restauration de la vénération des icônes, ou la théologie qui sous-tend cette vénération, est l'aboutissement de la réalité décrite par le Concile de Chalcédoine de l'union en Christ de Dieu et de l'homme. Donc de la déification de l'homme. Je suis obligé de résumer beaucoup, parce que sans quoi on en a pour des jours, des heures, des semaines, des mois ou des années à essayer de l'expliquer. Mais je vais essayer d'être un peu plus concis. Puisque l'homme est fait de matière et qu'il unit à Dieu, que le Christ se l'est uni en sa personne, non seulement l'homme, mais la matière elle-même est transfigurée par les énergies divines. En gros, c'est cela qui est fêté aujourd'hui. En gros. Et cette solennisation est une proclamation de notre foi en cela. Mais qu'est-ce que c'est que la foi ? La foi n'est pas simplement la croyance en une théologie, en un système, ni même en une personne, ni même en trois personnes. Bien sûr que c'est une croyance, mais la foi, c'est un engagement. C'est de vivre cette réalité-là. L'engagement qui est celui de l'Église et de ses membres, c'est la mise en pratique, c'est mettre en pratique la doctrine, mise en pratique la réalité que les pères conciliaires, les évêques et la conscience de l'Église a découvert et accepté, a confessé de l'union de Dieu et de l'homme. Donc c'est notre fête parce qu'aujourd'hui nous fêtons notre christification, nous vivons notre union tellement intime avec le Christ que nous devenons nous-mêmes membres du corps du Christ, c'est-à-dire nous devenons nous-mêmes Christ, par d'autres Christ, nous ne sommes pas des rivaux, mais en lui, nous sommes un. Et cette fête se trouve le premier dimanche, jour de résurrection, du carême, parce que justement, la conversion qu'implique le carême, ou que suscite le carême, c'est dans les deux sens, cette conversion-là est précisément une étape, le chemin, la voie qui mène à cette réalisation personnelle, mais en Église, de ce qu'ont défini ces conciles. toute notre conversion de carême, qui symbolise toute la conversion de notre vie, il n'y a pas beaucoup de différence entre la vie, toute une vie chrétienne et 40 jours de carême. Cet effort, toute cette conversion nous conduit à réaliser plus pleinement en nous la véritable ressemblance avec Dieu, ressembler au Christ. Non seulement ressembler de l'extérieur, mais se mouler ou se laisser mouler en lui, par lui, de manière à être un avec lui, de manière à lui ressembler, afin de devenir les ressemblants de la Sainte Trinité, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est un vaste programme. Et s'il en est ainsi, et il en est bien ainsi, vous comprendrez que le Père, le Fils et le Saint-Esprit étant trois personnes distinctes dans leur personne, mais une dans leur nature, plus nous leur ressemblerons, plus nous assimilerons en Christ pour leur ressembler, plus nos personnes multiples devront être unies pour ne plus faire qu'une nature en Christ. C'est la raison pour laquelle l'insistance est tellement donnée dans l'Église. C'était d'ailleurs le thème de l'évangile d'hier, de la liturgie d'hier. Ce que je vous recommande, c'est que vous soyez un, disait le Christ dans l'évangile hier. L'insistance de toute l'Église toujours sur cette unité des différentes personnes par le lien de la charité. Une expression de l'icône, qui n'est pas que l'icône peinte, c'est aussi la liturgie. La liturgie est l'icône, si je puis dire, théâtrale, si vous voulez, l'icône en acte, et pas seulement en peinture, et c'est l'icône de l'harmonie, humainement parlant, ressentie de différentes manières, de l'harmonie qui existe entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, avec tous les hommes, avec tous les anges et avec toute la création. C'est une explosion de joie, parce que c'est une explosion de la gloire de Dieu qui a créé ce monde unique et qui se l'assimile. La liturgie, au-delà de tous ces rites multiples sur lesquels on peut épiloguer pendant aussi des jours et des jours, la liturgie constitue en elle-même un miracle extraordinaire, une icône de la vie divine. Non seulement parce que il y a du pain et du vin qui mystérieusement, je devrais dire mystiquement, deviennent corps, nature du Christ, et qui deviennent, le vin devient la vie, la participation à la vie du Christ, mais parce que par cette transformation, par cette Eucharistie, par cette action de grâce, par cette action divine et humaine à la fois, d'un don de Dieu et d'une réception par l'homme, qui est aussi un don de lui-même, il y a un miracle, ce miracle extraordinaire de la constitution d'un corps unique, le corps du Christ, à travers des personnes différentes. Voilà ce que nous célébrons aujourd'hui par cette fête. Vous voyez que ça dépasse de beaucoup la simple possibilité ou le conseil de vénérer les icônes peintes. Mais il faut en voir encore, et c'est ça le but du carême, c'est pour ça que c'est le premier dimanche, de venir à nous orienter dans cette voie-là, comment réaliser cela. Évidemment, on réalise cette, personnellement, son adhésion à cette transformation par notre conversion, j'allais dire individuelle. Mais la conversion individuelle n'a pour but que d'amener, de faire un retournement de manière à sortir de son enfermement sur soi-même, de son ego, pour adopter la vie des autres, sortir de sa coquille pour être un avec les autres. Ceci est absolument impossible à réaliser pour un homme. Je sais que vous attendez que je vous dise que pour les femmes aussi d'ailleurs. Donc ça y est, j'ai craqué, je vous l'ai dit. Mais c'est impossible s'il n'y avait pas l'Esprit Saint. Et comment avoir l'Esprit Saint, comme vous l'avez fait par le baptême et par la chrismation et par la communion. Mais ce ne sont pas baptême, chrismation, communion, ne sont pas des rites magiques. Il faut encore y adhérer personnellement. Et on y adhère par notre foi d'une part, par notre effort de conversion d'autre part, en apprenant souvent douloureusement et aux dépens de notre moi, on apprend à essayer, avec la grâce de Dieu, à préférer, à insister davantage sur les choses éternelles que sur les choses matérielles, sur la vie de l'au-delà plutôt que sur la vie d'ici, tout en ménageant et en faisant attention à la vie des quelques années que nous avons à passer sur Terre. Il ne s'agit pas de se suicider. Mais c'est quand même orienter notre vie sur les choses éternelles. S'il en est bien ainsi, et il en est bien ainsi, vous comprenez aussi pourquoi, comme je vous disais tout à l'heure, pourquoi l'amour, la charité, l'agapé est tellement important. Toute faute contre la charité est une rupture dans l'harmonie de ce corps unique. Si nous sommes si liés les uns les autres en Christ, notre nature est celle du Christ. Ne pas aimer l'autre, avoir du ressentiment contre l'autre, mais une barrière à tout le corps du Christ, puisque le corps du Christ est un. C'est une voie de conséquence. D'où l'importance absolue de découvrir ce que c'est que la charité universelle, pas uniquement en faisant partie d'ONG ou de cercles de bienfaisance. Ça peut rentrer en ligne de compte, mais c'est pas ça le but. Mais en ayant un cœur brûlant de désir, d'abandon de soi-même par préférence de l'autre. D'où la nécessité du pardon absolu, sans condition, et généreux, préférant l'autre, et tant pis pour le... tant pis. Et prenant les désagréments que je peux ressentir comme une participation à la croix du Christ, mais offert généreusement pour justement être un avec lui, puisque lui s'est fait un avec nous. Comment accomplir cette réalité-là en ayant conscience, en développant ce qu'on appelle les fins dernières, en méditant, je ne vous dis pas vous prendre la tête et puis des heures au soleil levant pour réfléchir sur le... Non, c'est pas une question de réflexion. Mais en passant notre vie à pressentir, à analyser en quelque sorte, mais par la foi, par le cœur, pas intellectuellement, ce qu'est la vie éternelle, pour désirer entrer dans la vie éternelle et communier à cette vie éternelle à chaque liturgie et à chaque prière, et puis petit à petit à chaque instant de notre vie. Cette réalité-là du triomphe de l'orthodoxie est exprimée à chaque dans l'idéal, dans l'absolu, je veux dire, est exprimée à chaque liturgie, justement, où d'un seul cœur, d'une seule âme, avec un seul amour, nous osons proclamer le « Je crois en Dieu, Père Tout-Puissant ». Il est impossible de proclamer cet acte de foi sans être inspiré par l'Esprit Saint et sans manifester en même temps un amour pour le Christ qui est l'autre, y compris celui qui marche sur les pieds pendant la liturgie ou qui me brûle la barbe parce qu'il a amené son cierge trop près de moi. Voilà la réalité de la fête d'aujourd'hui. Et ceci, vous comprenez bien, mis au début du carême, exprime tout simplement ce qu'on va ressentir d'une manière plus particulière, plus glorieuse, si je peux dire, dans quelques semaines pour Pâques. Ça, ce que nous vivons aujourd'hui, cette réalité-là, que j'essaie de vous exprimer maladroitement, c'est une Pâque. C'est un passage. C'est un passage entre la perception humaine, humaniste, j'allais dire, du monde, à une perception divine de la réalité. C'est un passage de la vie temporelle à la vie éternelle. C'est une transfiguration. Toute liturgie est une transfiguration. Toute prière est une transfiguration. Même si la prière passe à essayer de lutter contre le sommeil, et de lutter contre les pensées, et que finalement on n'y arrive pas, peu importe. Ça, c'est une transfiguration. Cette lutte-là est une transfiguration. Cette lutte-là est à sa manière une illustration de la victoire de l'orthodoxie, du triomphe de l'orthodoxie, victoire de l'icône humaine. La prière, c'est une association personnelle à l'acte d'amour du Christ pour son Père, du Père pour son Fils, et de l'un et l'autre, et de l'Esprit Saint pour nous et notre échange. C'est ça la prière. Donc même si je suis assailli par le sommeil, par les mauvaises pensées, par les pensées tout simplement, par le ventre qui chante, et parce qu'il crie famine, et les pensées des devoirs que je vais faire, que je vais devoir accomplir dès que la prière va être terminée, ça est de peu d'importance. Mais le fait de se mettre en prière, c'est une participation à tout ça. C'est ça l'Église. Et c'est ça que nous apprenons à réaliser pendant la liturgie. C'est grâce à ça que nous osons, comme il est dit avant notre Père, nous osons appeler Dieu, l'appeler comme Père, l'appeler comme un Père. Pas l'appeler simplement Père, pas l'appeler Papa, mais l'appeler en tant que Père, le nommer en tant que Père, le prendre pour vraiment pour notre Père, parce que ainsi il est. Et il faut une sacrée audace. Parce que créature comme ça, ce n'est pas simplement question de filiation par mode de créature, parce qu'il nous aurait créé. C'est une filiation parce qu'il nous aime et qu'il nous fait de nous. Il nous a créé en faisant nous extérieurs à lui, mais il est Père de la mesure où il nous prend en lui, il nous adopte et il nous fait un avec lui. C'est ça la réalité d'aujourd'hui. Et ça, on l'accomplit, enfin, comment dire, l'Église, ou l'Esprit Saint dans l'Église, a institué des organes pour accomplir cette réalité-là, qui sont, par essence, la vie monastique, où tout est constitué, tout est organisé dans la vie monastique pour accomplir cela, d'où la nécessité, par exemple, de l'obéissance absolue, qui est un acte d'amour absolu, mais aussi, et pas moins, dans la vie familiale, dans la vie conjugale, qui est aussi d'apprendre à faire la même chose, mais à deux, pour s'épauler et en supportant l'un et l'autre, de manière à ce que deux personnes apprennent, en apprenant à ne plus faire qu'une, soit l'image, le sacrement et l'expression et l'apprentissage de l'union de l'humanité à la divinité. Deux vocations extérieurement vécues différemment, mais intérieurement l'unique vocation de tout homme que réalisent les chrétiens. Bon courage, bon carême et bonne résurrection.
Merci.